Manage your entire business with Sage. Sage Business Cloud offer a faster, more flexible, and easier to use ERP system that will reduce costs and strengthen your bottom line. Get industry-specific support, improve your supply chain transparency, reduce risks, and ensure efficiency with real-time monitoring and secure cloud and mobile access whenever, wherever you are. Join over 2 million customers who already trust Sage to manage their back office. Visit sage.com and search for ERP today.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we'll go to fish. Hein?
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, l'after qui continue avec vous tous pendant cette période sans foot, tous les soirs en direct, bien sûr, l'after uniquement sur RMC, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Pierre Ducrot est avec nous ce soir, salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et Jérôme Rantaine. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tous.
L'after en télétravail, vous le savez. L'after en radio-travail. On va régler ça, les gars.
Ouais, c'est mieux que la dernière émission, on l'entendait pas du tout.
Oui, si. On peut le voir comme ça. L'after en radio-travail, Daniel est dans sa salle à manger, Jérôme dans son salon, et Pierre toujours dans sa cuisine, bien sûr. Je précise que tout à l'heure, à 23h40, Julien Cazard nous rejoindra pour le quiz. L'événement ce soir dans l'after, c'est Alain Perrin qui sera avec nous dans un petit quart d'heure. L'entraîneur qui a lancé l'étincelante carrière de Jérôme Rantaine nous donnera son avis sur l'évolution actuelle du foot, sur les grandes tendances tactiques. On débattra avec lui, avec vous, au 32-16, bien sûr. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant pour participer.
Lequel a lancé la carrière de l'autre?
Ah, je me disais bien que tu mettais du temps à réagir. J'ai dit qu'il avait lancé ta carrière étincelante.
Ouais, mais lequel a lancé la carrière de l'autre, tu le sais, toi?
Bah, moi, je pense quand même que c'était lui le coach, non? C'était pas toi.
Ah oui, oui.
Donc non, c'est le coach qui lance les joueurs.
Ben oui, mais sa carrière, elle a pris son envol aussi après passage à 3, non?
Il y avait aussi Gary Bamzin, Carl Touraine. Ouais. Il y avait d'autres, il n'y avait pas Gianni, que toi.
Mamadou Niang.
Mamadou Niang, exactement.
Et Blaise Matuidi.
Et n'empêche que là, une fois de plus, on constate là, derrière la blague, que Jérôme fait partie de ces joueurs, ça existe, qui ont peu de considération pour le travail de l'entraîneur.
Et bam, ça démarre fort.
Mais je l'ai toujours remarqué.
Mais il est dingue, ce mec.
Je l'ai toujours remarqué.
Moi, je l'aurais pas dit comme ça, Daniel. Jérôme, il n'y a pas de honte.
Mais
c'est-à-dire. De lui-même.
Non, voilà, attends. Je te promets, c'est autre chose.
Laissez-moi finir le sommaire avant de commencer à vous mettre sur la tronche. Également au programme ce soir, la gestion de la prolongation des coachs. Oui, parce qu'il faut qu'on en parle. Ça se complique pour certains clubs avec la crise du coronavirus. À 23h20, comme promis il y a quelques jours, et suite à une proposition que vous nous avez envoyée sur le hashtag MonAfter, retour sur l'étonnante finale de la Coupe de la Ligue Guignon-PSG. C'était il y a 20 ans. Eh oui, il y a 20 ans déjà. Malheureusement, ça tombe sur Pierre Ducrot qui était titulaire ce soir-là. Désolé, Pierre.
Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, quand tu joues régulièrement des finales de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, à un moment donné,
t'en perds. C'est vrai qu'à cette période, t'as souvent au Stade de France, hein, Pierre.
Ouais, j'aurais préféré ce soir qu'on parle des deux finales remportées en 98.
En 98, t'y allais deux fois.
Hein. Bah ouais, puis deux victoires, mais non, on a choisi de parler de celles que j'ai perdues en 2000. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, bah, c'est la pire. Pas pour toi, c'est la pire.
Pour tous les Parisiens, c'est la honte.
C'est pas pour toi, Pierre, c'est parce que c'était pour l'exploit du petit.
Bah, d'ailleurs, Sylvain Distin sera avec nous. Il était à l'époque à Guignon. Voilà, parce que Pierre, il s'est dit attends, c'est pas besoin que moi je prenne tout dans la tronche. On va s'arranger pour avoir un gars qui l'a gagné. Bien joué, Pierre. Chapeau l'artiste. À 23h.
Ouais, un gars de confiance, surtout, qui va pas trop chambrer non plus.
À 23h, autre histoire que Fred Hermel va nous raconter ou nous remémorer, celle du fameux transfert de Figo du Barça au Real. C'était en 2000. Peut-être le transfert le plus scandaleux de l'histoire de la Liga, selon les supporters du Barça, la fameuse tête de cochon. On en reparlera tout à l'heure à 23h. C'est marrant parce que Manuel Valls était Il y a un quart d'heure à l'antenne, là, juste avant nous, dans, avec, sur RMC. Et, lui qui est un grand fan du Barça, il aurait pu lui donner son avis. Le 32-16 est ouvert. Le hashtag RMC Live sur Twitter, Direct Studio, bien sûr, sur les applis RMC et RMC Sport. C'est gratuit. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos messages, bien sûr. Faites-le dès maintenant. Alors, Alain Perrin dans quelques minutes. Mais d'abord, messieurs, l'actu du jour. Et puis votre journée, là. Votre journée, vous êtes comme tous les Français, bien sûr. On est tous confinés. Moi, je suis le seul en studio, je le rappelle, avec Jérôme Thomas, Paul Vecchio et Max du Standard. Vous êtes à la maison.
Ouais, mais tu y es le soir, toi, en studio.
Bah oui, le reste de la journée, je suis bloqué, je suis comme vous, je suis chez moi. T'es ouais, sorti ouais, aujourd'hui, Jérôme?
Non, je suis pas sorti, comme hier, dans le jardin, j'ai fait mon sport après, en début d'après-midi, et puis j'ai attendu tranquillement, je me suis un peu fait chier quand même en fin de journée, mais bon, c'est comme ça.
Oui, c'est, ça va devenir habituel, ça, tu sais.
Ouais.
Et toi, Daniel?
Écoute, là, ce soir, j'ai un peu peur. Donc, je suis pas en grande forme. En plus, une petite tendance hypochondriaque. Donc, je te cache pas que savoir ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne m'en soucie même pas. Tant je pense surtout à me réveiller en forme demain matin, pour te dire la vérité. J'ai une sorte d'état global et de mal de tête là qui est pas très familier. Quoi. Je suis un peu bizarre.
Un peu donc, de paracétamol.
Et un peu d'angoisse, pour te dire la vérité.
Bon, bah
je suis pressé d'être demain matin, en fait.
Du Doliprane, là, pas de Nurofen, du Doliprane, Daniel.
Ouais, je sais, j'attends. Bon. J'attends un peu, là. Okay.
Et toi, Pierre?
Écoutez, moi, je suis chanceux parce que pas de mal de crâne, je suis en pleine forme. J'ai passé une bonne journée bien occupée. Voilà, j'ai eu quelques clubs au téléphone, des joueurs.
Les mecs, ils bossent l'oseille ouais, toujours. L'oseille.
Aujourd'hui, non, mais ah, aujourd'hui, oui. On a eu pas mal de. Non, c'est pas, on va pas faire d'oseille aujourd'hui, mais en tout cas, des discussions intéressantes. Donc, non, je m'estime chanceux. Voilà, ma petite fille aussi, elle s'occupait. Donc, j'ai pas vu la journée passer, honnêtement.
Ah, moi, j'ai fini English Game, la série, 6 épisodes. Ah. Extraordinaire, parfait, alors un régal.
Ah ouais.
Alors, je me suis.
C'était bien.
Vraiment, je vais essayer de la regarder. Je vous le conseille. 6 épisodes, ça passe tout seul. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Et on apprend plein de choses, évidemment, sur l'origine du sport qui nous rassemble tous les soirs. Et on s'aperçoit que déjà à la fin du 19e siècle, tout était déjà là, quoi. Les transferts, la naissance du professionnalisme, tout est déjà là. Les bagarres en tribune.
Bah, excuse-moi, mais il y avait ni le VAR ni Larry Bosman.
L'arrêt Bosman.
T'avais cherché les Aristotles.
À partir du moment où on achète le mec de l'usine de la ville d'en face pour le faire jouer chez toi, et qu'il est considéré comme un traître de ce fait et que ça provoque une bagarre, même s'il y a que 50 personnes dans les tribunes, on n'est pas loin d'être dans quelque chose qu'on peut connaître un petit peu quand même.
Ah, je croyais que c'était un ouvrier qui était acheté pour jouer avec les Aristotles, moi.
Non, les Aristotles restaient entre eux et eux ne voulaient surtout pas du professionnalisme. Ils détestaient ça. Ils voulaient pas en entendre parler. Parce qu'il disait que justement, si on jouait pour l'argent et non pas pour l'honneur, ça finirait mal. Ça finirait en des histoires d'argent, des histoires de bastons en tribune et de ce genre de choses-là. Eux ne voulaient absolument pas entendre parler. En fait, le football business a été inventé par les ouvriers. Il faut le savoir. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est sûr que
ils étaient déjà riches à la base, donc
ils avaient pas besoin de l'argent. Absolument. Voilà. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait ça raconte une histoire formidable qui est en fait l'association entre un aristo et un ouvrier. C'est eux qui ont créé le football moderne. Et c'est une histoire vraie. L'aristo, parce qu'il disait à ses copains, mais comment vous pouvez leur reprocher de jouer pour l'argent ou de se transférer d'un club à l'autre comme ça, alors que vous avez le temps de bien manger, de bien vous entraîner parce que vous avez des métiers plus faciles et tout. Eux, ils triment toute la journée, le soir, ils ont à peine le temps de s'entraîner et vous voulez qu'après, ils gagnent la FA Cup. Laissez-leur le droit de gagner de l'argent et de pouvoir rivaliser avec nous, parce que s'ils le font pas, on va toujours les battre et on restera que entre nous. Et donc, l'association de cet esprit novateur dans le clan des Aristos, associé au meilleur joueur de l'époque, qui est un petit Écossais, qui est un peu le créateur du film moderne, et ben, à deux, ils ont créé le foot d'aujourd'hui. Et franchement, l'histoire, elle est géniale. Vraiment, elle est très, très bien. Regardez-le, je vous conseille.
Très bien. Et on va enchaîner, nous, tout de suite, avec notre nouvelle chronique qui a des rebondissements tous les jours. La fameuse chronique des présidents. Make Ligue 1 great again.
D'autres voudraient avoir un montant plus pour plus.
L'équipe de France et la Coupe de France.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
She was devastated. I know many wives that don't get...
Upset. C'est un provocateur, non, on non, sait non, très non, bien.
Il faut aller le plus loin. Pourquoi pas vraiment plus loin.
Au revoir.
Aujourd'hui, c'est Claude Michy qui entretient
notre
chronique. Précisons
que le dernier n'était pas un président de club. Le dernier qu'on entend.
Oui, dans la... on l'a vu jouer au foot une fois, c'était pas fameux. Hein. Giscard, les images étaient fantastiques. Il ressemblait un peu à David Lorto quand il courait, Giscard.
Ah ouais, c'est dire. S'il y a la même qualité technique, on est mal.
Voilà. Alors, aujourd'hui, dans notre chronique Make Ligue 1 Great Again, Claude Michy, vous savez, en début de semaine, on vous a raconté l'histoire de Bernard Caillazeau qui a voulu réunir une sorte de cabinet obscur, cabinet parallèle pour prendre des grandes décisions sur l'avenir du foot. Les autres présidents, et notamment Nathalie Bois de la Tour, en maîtresse autoritaire, a tapé sur les doigts de tout le monde, les emmenant arrêter. C'est pas comme ça que ça marche. On a déjà un bureau à la Ligue et c'est celui-là qui doit décider. Et Claude Michy avait été invité au titre de président de l'UCPF à ce cabinet occulte. Et bah, il avait décliné en disant non, moi je rentre pas là-dedans. Et aujourd'hui, il a donné une interview à La Montagne, vous savez qu'il est de Clermont-Ferrand, La Montagne, c'est le journal de Clermont.
Bien sûr.
Et Michy dit, Bernard Caillazeau, avec d'autres, ont voulu créer un comité de pilotage parallèle. Donc il confirme que c'était bien à leur initiative. Il dit, c'est indécent.
J'ai compris, Gilbert, on n'en doutait pas.
Oui, bah, quand c'est quelqu'un, un mec de l'intérieur qui le dit, au moins, voilà. Et il dit, Michy, c'est indécent. J'ai refusé d'y participer. Dans ces périodes, il ne peut y avoir de privilèges. Et ceux qui sont privilégiés doivent être d'autant plus au service des autres, dit Michy, qui ajoute c'est un nouvel épisode dont est coutumier le football, qui est une planète un peu particulière. Voilà ce que dit Michy, qui a été un peu le chevalier blanc de cette affaire et donc dénonce aujourd'hui ce qui s'est fait. Quoi.
Chevalier blanc, je ne sais pas. Effectivement, comme tu dis, il dénonce ce que les mecs ont essayé de faire. Maintenant, je ne sais pas s'il est complètement chevalier blanc de l'affaire. Il défend ses intérêts. C'est ça, en fait, le truc. Hein.
Bah non, lui, il dit, moi, je fais passer le collectif avant les intérêts particuliers. Donc, il était hors de question que les gros clubs s'entendent entre eux sur le dos des autres.
Ouais.
Donc on peut saluer, moi je salue personnellement ce qu'a fait Claude Michy. Voilà.
Ouais, bon, c'est pas étonnant.
Il prend une position qui est.
Il fait rien de complètement dingue. Hein.
Oui, c'est ça, exactement.
Complètement dingue. Il vient pour dire dis donc, c'est pas bien les gros, ce que vous avez fait. Voilà, c'est pas.
Certains se risquent pas à le dire, Daniel.
Bah oui.
Non, mais lui, il a toujours été un personnage important de la représentation footballistique.
Oui, et puis souvent pour défendre les petits.
Pour se mettre à la tête des petits clubs, effectivement.
Oui, parce qu'il est, lui, à la tête d'un club qui est un petit club. À l'échelle du foot français, voilà. À l'échelle du foot professionnel.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Je ne pense pas qu'il ait fait quelque chose de dingue. Il a fait quelque chose de normal.
Voilà, il a fait quelque chose de bien. Voilà. Il a expliqué, il a dénoncé.
Okay. Non, il fait bien en ce moment, c'est
exactement. Dans notre chronique Make Ligue 1 Great Again,
c'est tout, héros partout non plus.
Tous les jours, il y a quelques propositions. Donc hier, c'était Jean-Pierre River. Hein. Aujourd'hui, c'est Alain Giresse qui fait une proposition. Et qui dit...
Elle est naze, hein.
Ah bah attends, je l'ai pas encore donné. Attends.
Ah oui.
Donc il dit je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est que quand la saison redémarre, c'est-à-dire en août, on fait les 10 matchs qui restent et ensuite on enchaîne sur le championnat direct. Et de toute façon, comme il y a des dates qui se libèrent avec la Coupe de la Ligue qui disparaît, du coup ce serait neutre parce que il y aurait largement la place de faire un championnat avec un peu de retard en faisant les 10 journées avant. Voilà la proposition du jour d'Alain Giresse. Voilà, ça ne vous soulève pas.
Et la période la période des transferts, ouais. Tu la fais quand en fait?
Non, mais c'est ça, tu fais comment avec tes joueurs qui étaient en fin de contrat dans le club, ceux que tu vas racheter l'été pendant le mercato.
Vous voulez dire que par rapport au mercato, il faut forcément qu'il y ait une césure entre la fin du championnat actuel
et les mêmes effectifs.
T'as pas quand même l'impression qu'à chaque fois que t'as un mec qui sort du bois avec une proposition qui n'est pas celle de dire faisons tout pour que ça se termine peu importe comment, c'est toujours une proposition un petit peu chelou où on trouve toujours quelque chose qui va pas finalement
dans sa proposition. Ça se termine, mais sauf que ça s'enchaîne avec le nouveau.
Oui, mais c'est
ça se termine pas avec les mêmes effectifs que ça a commencé pour
ce que tu veux dire, c'est qu'un joueur transféré, il faudrait qu'il change de club en une semaine pour partir ailleurs, par exemple, si on enchaînait.
C'est sûr, c'est juste impossible. Puis on va laisser la personne.
Voilà, je voulais vous relayer cette proposition du jour, hein, pourquoi pas. Il faut les relayer.
En termes de calendrier, il a peut-être raison, c'est faisable, mais il n'y a pas que le calendrier. S'occuper de tout le reste.
On fera peut-être sans doute un sujet peut-être demain dans l'after, on va voir, mais aujourd'hui au niveau européen, l'UEFA s'inquiète et parle de faillite pour un certain nombre de clubs. Je vous livre quelques déclarations du jour. Par exemple, le président d'Aberdeen, club écossais, qui dit « Aucun club, quelle que soit sa taille ou son niveau, ne peut supporter une absence totale de revenus pendant une période allant de 3 à 6 mois », dit le président d'Aberdeen. Voilà, c'est très clair. D'ailleurs, dans cet ordre d'idées-là, la Fédération espagnole a aujourd'hui débloqué 500 millions d'euros pour les clubs pro. Pour les clubs de première et deuxième division, hein. C'est-à-dire que, en fait,
pour le Barça, ce qui paraît, pour le Barça seulement.
Alors attends, la Fédé espagnole dit, c'est très simple, tous les clubs de première et deuxième division qui vont être en difficulté parce que donc pas de trésorerie ou pas de rentrée d'argent pendant 3-4 mois, eh ben on les propose de leur prêter entre 15 et 20 millions chacun, qui pourront ensuite rembourser sur 5 ou 6 ans derrière. Voilà ce que dit aujourd'hui la Fédé espagnole. Et donc c'est pas la Liga, hein, c'est la Fédération espagnole, parce que le système est fait comme chez nous, avec une Ligue et une Fédé. Donc voilà ce que fait aujourd'hui la Fédération espagnole. Ils proposent aussi d'aider les clubs, parce qu'en Espagne il y a des clubs pro de futsal aussi qui sont importants. Donc ils proposent d'aider aussi les autres, hein, mais principalement la Ligue 1 et la Ligue 2.
Voilà. Je pense que c'est à la fin que les comptes seront faits et qu'on verra qui on peut aider. Et en gros, il faut attendre de savoir qui souffre et comment, parce que c'est très dur d'évaluer quelle va être
Sans doute que les Leganés ou les petits clubs vont plus souffrir que le Barça, qui a de la trésorerie quand même.
Mais c'est une fois, si tu permets l'image, que les corps seront par terre, qu'on saura comment on peut relever et comment on peut soigner les blessures, en fait. Pour l'instant, c'est encore un peu flou. On sait juste qu'il va y avoir un grand préjudice, une grande souffrance, mais on ne sait pas exactement à quel niveau ça va l'être.
Oui, Pierre.
Et attention aux masses salariales générées dans les grands clubs. C'est beaucoup plus important dans dans leur budget.
Bien sûr.
Que dans celle des plus petits clubs. Et ça peut avoir une réelle importance. Mais finalement, on en est au même niveau que dans n'importe quel secteur d'activité aujourd'hui où c'est le flou total. Et tant qu'on sait pas combien de temps ça va durer, les dirigeants des entreprises sont dans l'embarras. Oui. Sont dans l'embarras et commencent à être dans la mouise.
Alors, dernier petit sujet que je voulais aborder avec vous. On a appris ce week-end la prolongation de Thierry Loret à Strasbourg. Un an.
On l'a appris depuis plusieurs jours. D'ailleurs, je suis très étonné que c'est pas fait l'ouverture de l'émission pendant 3 soirs de suite.
Exactement, parce que ça a dû travailler un peu. Toi qui voulais voir Ismaël.
Il y a un truc qui m'a travaillé quand même et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'en fait, les clubs, dans la situation actuelle qui est donc le flou le plus total, ils ont très franchement intérêt à sécuriser un coach le plus vite possible. Plus que les joueurs à la limite,
c'est-à-dire.
Bah, je t'explique ma théorie. Là, tu sais pas quand tu vas reprendre. Donc peut-être que la décision de reprendre va se faire en disant tiens ça y est, on y va dans 15 jours c'est parti ou dans 3 semaines c'est parti. Il y a les entraîneurs qui arrivent en fin de contrat. C'est-à-dire que si tu sécurises pas ton coach maintenant. Si t'es un coach en fin de contrat, tu peux te retrouver planté au 1er juillet. Non, mais ça change rien par rapport aux joueurs. Mais le coach, c'est quand même la pièce maîtresse la plus importante de ton club, non ?
La pièce maîtresse,
c'est t'empêche. Et si tu te retrouves planté le 1er juillet, que t'as plus de coach, puis que t'as compte, dit attendez les gars, finalement, on reprend dans 3 semaines.
Les joueurs, c'est pareil.
Si ça avait voulu changer,
les joueurs, t'en as 25.
T'aurais pris des contacts avec un autre.
Le coach, t'en as un.
Arrête.
Voilà, ce qui t'empêche de prendre contact avec le coach que tu veux, de régler tout avant.
Et tu boucles l'affaire. Justement parce que tu as du temps prochaine. En ce moment.
Donc c'est moi qui me fais des films alors.
Dire franchement, si Thierry Loret est contacté par des grands clubs, déjà on le saurait.
Je partais de l'exemple de Loret pour parler de tout le monde, moi. C'était pas une question
Les autres, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que, en gros, les entraîneurs qui sont, tu réfléchis parce qu'il y en a qui vont pas être prolongés ou t'en as même qui sont sous contrat et on va leur demander d'aller voir ailleurs, peut-être. Aujourd'hui, c'est aller trop vite en besogne. Il faut attendre déjà quand le championnat va reprendre. S'il reprend,
moi je serai président du club. Je sécuriserai un coach en tout cas.
Non mais vous occultez quelque chose. C'est peut-être juste que Marc Keller avait envie de continuer avec Thierry Loret, basta.
C'est plutôt ça.
Je vous parle pas de Strasbourg. Là, je vous parle dans l'ensemble en fait. C'était mon propos, c'était de dire quelle stratégie on adopte quand on est dirigeant aujourd'hui par rapport à un renouvellement et un changement.
Quel entraîneur est en fin de contrat? Il y en a pas beaucoup, hein.
Bah, oui, là, tu dois en avoir quelques-uns quand même.
Il y en aura quelques-uns en Ligue 1, en Ligue 2.
Ah bon. Vas-y, sortez-moi après, le nombre. Voilà, sortez-moi le nombre. Je peux te dire qu'à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est même pas une question de savoir si l'entraîneur, oh là là, attention, va nous mettre dedans parce qu'il va refuser de prolonger. Et puis, vu que ça va peut-être s'étendre le championnat jusqu'à fin juillet ou fin août, ça on le sait pas. Si t'as un entraîneur qui est en fin de contrat le 30 juin et que de toute façon le président veut absolument le prolonger parce qu'il fait du bon travail, déjà je pense que ça aurait dû être fait bien avant cette crise. Et la preuve, c'est que l'horaire, à mon avis, et Pierre a raison, ça n'a rien à voir avec le fait que Keller s'est dit, oh là là, il est en fin de contrat, je vais me retrouver dans la merde sans entraîneur le 30 juin, si le championnat se finit fin août, oh, il faut absolument que je le prolonge. Non, je pense que il a envie de continuer avec lui parce qu'il est pas, il trouve qu'il fait du très bon boulot, ce qui est vrai, et puis voilà. Et je pense que les autres vont réagir de la sorte, et ceux qui seront pas prolongés, dans tous les cas, c'est parce que les présidents n'en veulent plus l'année prochaine.
Vous pensez pas que
la seule question qu'on peut... Ouais, vas-y Daniel.
Non, je voulais changer, je voulais pas continuer à parler de la situation de Loret. Donc si tu dois.
Oui, mais moi je suis parti de Loret. Après, pour élargir.
Après,
il y avait juste une autre question. Vas-y. Pour Strasbourg et pour Loret, la seule question qu'on aurait pu se poser, c'est pourquoi juste un an à la limite.
Surtout que ça fait 3 ans qu'il est prolongé d'un an.
Voilà, et ça, ça à la limite, c'était une bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui le Racing
Moi, j'ai une réponse financière à donner. C'est que si tu te sépares de lui au milieu d'année, ça coûtera moins cher.
Ouais. C'est sûrement ça.
Mais il était en fin de contrat là.
Oui, il était en fin de contrat.
Je pensais, excuse-moi Daniel, mais je pensais que les contrats d'entraîneur c'est minimum 2 ans.
Bah, peut-être que dans le cas d'un renouvellement, Jérôme.
Moi aussi, ça m'a un peu surpris effectivement ça.
Ouais.
Plus globalement, ce que je me demandais moi sur cette intersaison, est-ce qu'elle va pas être très calme, Pierre? Comment tu sens le truc entre les difficultés financières des clubs, le calendrier chamboulé, les joueurs qui sont pas tellement en train d'envisager le déplacement physique au vu de ce qui s'est passé, est-ce qu'on pourrait pas avoir une intersaison des plus calmes de l'histoire?
C'est possible, mais honnêtement aujourd'hui, imaginer un scénario me paraît très très compliqué quoi. Ça va d'abord dépendre et comme un peu tout le reste de combien de temps ça dure réellement. J'ai envie de te dire que si t'as une reprise du championnat, enfin ou plutôt si t'as une fin du championnat, on va plutôt réfléchir comme ça, qui intervient, même jusqu'à mi-juillet, tu vois, fin juin, mi-juillet, t'as encore le temps de mettre les joueurs 15 jours au repos, de faire une reprise, début août ou mi-août, tu vois, et de pas trop avoir de retard, si ce n'est aller de 2 semaines ou 3 semaines sur une reprise habituelle. Donc finalement, t'auras un mercato pendant les vacances des joueurs entre la fin de ce championnat et la reprise de l'autre. Il peut ne pas y avoir beaucoup d'incidence. Si ça se passe pas comme ça et que c'est un peu plus long, là effectivement, je sais pas trop comment ça va pouvoir se passer parce que ça veut dire qu'il faudrait que tu mettes un mercato à cheval sur une fin de championnat ou sur un début de l'autre. Ça va effectivement compliquer pas mal les choses, mais c'est compliqué d'envisager un scénario. Honnêtement, je sais pas.
Messieurs, dans quelques instants, l'Impéra avec nous. Je reçois à l'instant une proposition de Farid qui nous dit salut les gars, dites-moi. Christophe Dugarry est maintenant régulièrement avec Vincent Moscato à 18h. Pourquoi est-ce qu'il viendrait pas un peu avec vous dans l'after? C'est vrai ça. Un petit Dugas avec nous de temps en temps dans l'after.
Où est-ce qu'il est physiquement Dugas en ce moment?
Il est chez lui. Il est chez lui.
Oui, comme il a plusieurs chez lui.
Oui, bah là, il est dans un de ses chez lui.
D'accord, ok.
Et donc comme il n'y a plus de team Dugas, il est souvent dans le Moscato Show, il s'occupe quoi. C'est vrai qu'on pourrait le prendre dans l'after un de ces soirs, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je
valide.
Très bien. Bon, on va s'organiser.
Il vient quand il veut.
Oui, il veuille.
Nous sommes une maison ouverte.
Ah ouais, ça, mais c'est pas trop un couche-tôt du gars. On va lui poser la question.
Je sais pas.
Dans quelques instants, Alain Perrin, attention, reconstitution des stacks dissoutes avec Jérôme Rantaine. Mais on va pas parler que de les stacks, bien sûr, on va parler des grandes tendances du moment. Aujourd'hui, c'est un observateur du foot, Alain Perrin. Il est retraité, donc on va en discuter jeu avec lui. Ça va être sans doute très intéressant. Au 32-16, vous pouvez participer avec nous dans quelques instants dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec Jérôme Rotten. Et nous accueillons l'ancien coach de Jérôme, je le redis, l'homme qui l'a lancé au plus haut niveau. Alain Perrin est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Salut Alain.
Bonsoir Alain Perrin.
Et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes un heureux retraité, Alain Perrin ?
Oui, on peut dire ça, oui, malgré le contexte un petit peu difficile actuellement. C'est vrai que là, je suis vraiment à la retraite.
Bon, sans aucune envie de reprendre ?
Non, c'est vraiment définitif. Il faut savoir aussi tourner la page et passer la main, laisser la place aux jeunes. Donc voilà, donc c'est vraiment une décision qui était mûrie depuis un certain temps, puisque c'était déjà avant de faire cette pige à Nancy que j'avais décidé. Et puis effectivement, la situation de Nancy la saison dernière m'a amené un petit peu à revenir sur les terrains, mais c'était vraiment one shot pour une saison et aider mon club.
Ah, allô ?
J'entends plus.
Ah bon, ça y est, vous êtes revenu. Oui, pour aider Nancy à se maintenir, quoi. C'était ça.
Exactement, c'était une semaine parce que c'était spécial. C'était ma ville, c'était mon club d'origine qui m'avait lancé, qui m'avait lancé en tant qu'entraîneur. Donc voilà, c'était la pression. Boucler la boucle, quoi, de terminer comme ça sur un petit clin d'œil du destin. C'est rare que dans la vie, on ait l'occasion de rendre à ceux qui vous ont donné, quoi. Le club m'avait donné une opportunité et j'avais l'occasion d'aider, même si la situation était difficile à ce moment-là. Et c'est pratiquement la saison où j'ai eu le plus de pression parce que justement, j'étais supporter de mes propres résultats.
Ah oui, ça c'est effectivement...
C'est rare, parce que quand on est dans le job, généralement, on sait que on travaille pour obtenir les résultats, parce que c'est important pour l'avenir, alors que moi, c'était vraiment immédiat, j'ai pas le droit d'échouer, hein, je dirais, pour l'avenir du club, c'était pas du tout pour le plan personnel, puisque effectivement, derrière, il y avait rien, mais pour les attentes que j'avais suscitées en arrivant là-bas, les amis, tous mes amis sont sur Nancy, les gens que je connaissais dans le club, qui étaient d'anciens joueurs que j'avais eu. Donc voilà, c'était vraiment de l'affectif. Donc c'est la première fois que j'avais autant d'affectif dans mon travail.
Vas-y, Daniel.
Oui, pardon. Si on regarde votre carrière, puisque tout à l'heure il sera question de vos débuts avec Jérôme, après 3, vous avez été un entraîneur... Allez, je vais employer l'expression à la mode, puisque vous avez quand même enchaîné 3 gros clubs français, Marseille, Lyon, puis Saint-Etienne. Puis après, ça a été l'étranger pendant 6 ans, le golf, la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Pourquoi à ce moment-là, vous êtes parti d'abord, et puis ensuite, en revenant, il y a cette pige à Nancy dont vous venez de nous parler. Et puis là, vous nous annoncez, même si on l'avait déjà entendu, que retraite. Mais vous avez perdu la passion, vous n'aviez plus envie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie finalement ? Où vous êtes dit, je pars à l'étranger, je me mets à l'abri pour le restant de mes jours, et puis je regarderai le foot à la télé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie finalement ?
Non, mais oui, c'était des choix de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, ayant fait des grands clubs, ayant eu des titres en France, je pensais aussi que, vous savez, comme vous le disiez, on est de mode, et que peut-être après l'épisode lyonnais, j'ai encore fait Saint-Etienne, mais bon, peut-être que je pouvais être moins à la mode, que je pouvais être passé, et je n'avais plus envie d'attendre ou de rester sur les challenges franco-français, et comme mon goût du voyage, de l'aventure était là. Et j'avais déjà eu une expérience en Angleterre avant, puis aux Émirats. J'avais décidé à ce moment-là que mon métier, je l'exercerais à travers justement à travers l'étranger uniquement. Et si possible, après mon expérience de Chine, je voulais justement prioritairement des sélections, mais j'ai eu des contacts, et ça a failli bien se faire avec un club en Inde, j'ai eu du contact en Israël, j'ai eu du contact avec pas mal de sélections, ça n'a jamais abouti, parce qu'on est souvent des fois 2-3 candidats, et après on n'est pas toujours choisi, mais mon projet personnel sur le plan professionnel, c'était que étranger pour justement des aventures.
Bon, il y a aussi, comme le disent parfois modestement les joueurs, le projet sportif, c'est-à-dire qu'il y a quelques chèques à prendre quand même.
Non, c'est pas... vous savez, j'ai eu des propositions où j'étais pour partir. Alors, effectivement, que ce soit au Qatar ou en Chine, j'ai très bien gagné ma vie. Mais les challenges que j'étais par la suite, j'aurais pu avoir des sélections africaines, j'aurais pu prendre des choses comme ça, qui étaient beaucoup moins intéressantes. Et effectivement, là, c'était vraiment le désir de l'aventure, parce que je savais aussi, compte tenu de mon âge, que j'avais pas envie de faire le métier à 70 ans, de rester. Donc... dans mon plan de carrière, je m'étais dit, si j'arrive jusqu'à 60 ans dans ce métier d'entraîneur, c'est assez difficile d'arriver. Donc, je voulais arriver à 60 ans. En fin de compte, j'ai pu aller jusqu'à 62 ans. Pour moi, c'était bien. Et je voulais profiter aussi de la vie parce que ce métier-là, il est un métier un peu de fou et que mon investissement dedans est toujours à 200%, quel que soit l'endroit où je suis, quel que soit le niveau que j'entraîne. J'ai une façon de travailler, de m'investir dedans qui est vraiment à 200%. Et ça laisse pas beaucoup de place pour vivre autrement, pour partager, pour, ben, par rapport à la famille, à ma compagne. Voilà, donc... c'est pour ça qu'après j'avais décidé à un certain moment de dire bon ben si les projets, mes derniers projets justement c'était que je visais un peu la Cannes ou l'Asian Cup de 2019 et donc comme j'ai pas eu les propositions ben voilà ben j'ai dit bon c'est ça arrive là ben, okay. J'arrête quoi.
Jérôme, alors toi qui as connu Alain Perrin à Troyes, ouais. Si tu devais nous résumer le coach Perrin, qu'est-ce que tu nous dirais?
Bah, je pense qu'Alain, de toute façon, par rapport à son parcours, il a évolué. Hein. Moi, je l'ai connu, c'était encore un jeune entraîneur, même s'il avait quelques années derrière lui, quand je suis arrivé à Troyes, qu'il avait réussi à faire monter cette équipe assez haut, sur même au niveau européen, donc ce qui était totalement inconcevable au départ. Hein. Donc, mais moi, le coach en lui-même... Moi, je le dis souvent, de toute façon, il y a des coachs qui marquent une carrière. Alain a marqué la mienne parce que je pense que je suis arrivé au bon moment à Troyes avec l'envie de passer un cap. Et c'est vrai que le style de management d'Alain, même s'il était très rude, encore plus quand il était jeune, je suppose. Ah oui. Il y a quelques bonnes anecdotes là-dessus, mais après, il a dû se calmer.
C'était pas genre Klopp ou Klopp qui prend dans les bras les joueurs. Quoi. C'était pas trop la mode à l'époque, c'est ça?
Non, mais il arrivait. Moi, j'avais besoin aussi, par moment, j'ai toujours eu besoin d'avoir de l'affectif, tu vois, de me sentir aimé. Donc, il arrivait à trouver les mots de temps en temps. C'était assez rare quand même. Hein. Il y a eu d'autres coachs qui m'ont brossé plus dans le sens du poil. Mais on a passé qu'un an et demi ensemble à l'arrivée, donc ça passe très vite. Mais moi, non, c'est plutôt le. On en parlait hier avec Lucas Elsner, là. L'entraîneur d'Amiens, c'était cette faculté qu'il avait à nous proposer des thèmes différents chaque semaine par rapport à l'adversaire. Je me suis épanoui tactiquement parce que j'ai joué à, et il va le confirmer, j'ai joué à beaucoup de positions. Et c'est vrai que ça m'a donné du volume, ça m'a donné de la confiance, de la sérénité. J'avais besoin de ça, si tu veux, pour passer vraiment encore un cap. Et pendant un an et demi, je me suis vraiment régalé. Donc, à jamais je le remercierais, parce que Daniel tout à l'heure je sais pas s'il plaisantait quand il disait que je réduisais le rôle de l'entraîneur, bien au contraire, quand il y a des entraîneurs comme Alain qui m'ont apporté un bagage tactique, technico-tactique important, bien sûr que à jamais je suis reconnaissant.
Bon, je sais pas Alain si vous voulez répondre à Jérôme.
Oui, non, mais ça me fait très plaisir de l'entendre. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Ça me fait plaisir de voir, parce que je l'ai suivi un peu de très loin. Et c'est vrai que je l'appréciais, mais c'est vrai que j'étais très dur, oui, je reconnais, parce que j'avais le désir de réussir et de m'imposer, et que je dirais que j'étais surtout dur, je dirais, avec les faibles. C'est-à-dire que j'étais une exigence. Pour moi, j'ai toujours dit, l'exigence, c'est pas moi qui la mets, c'est le haut niveau, c'est le très haut niveau, c'est de l'exigence. Il faut être très précis. Et quand vous tombez sur des joueurs, des grands joueurs, ils ont l'exigence en eux et ils font le job bien. Après, vous avez tas de joueurs qui ont du talent, mais qui n'ont pas l'exigence, qui sont pas professionnels, qui sont un petit peu désinvoltes, qui sont pas rigoureux malgré le talent qu'ils peuvent avoir sur le terrain, qui respectent pas le jeu collectif, qui préfèrent justement l'individualisme. Donc il faut toujours un petit peu s'affirmer contre ces joueurs-là qui sont des fois par rapport à un projet de jeu collectif qui sont pas dans le moule. Moi je me rappelle des tas de joueurs qui étaient justement dans le moule et qui avaient cette foi du football, et j'ai eu la chance justement dans beaucoup d'équipes d'avoir une majorité de joueurs parce que on peut pas faire les résultats contre les joueurs. Par contre, effectivement, il y avait des joueurs des fois qui étaient, et Jérôme n'en faisait pas partie, parce que Jérôme était un jeune joueur qui avait envie d'apprendre, il était plutôt professionnel de son approche et il avait envie de réussir. Donc ces joueurs-là, ils ne posent pas trop de problèmes parce qu'il avait une écoute. Et bon, après, il avait la qualité pour faire, donc il était relativement, il avait une forte personnalité. Hein, mais ça n'empêchait pas de pouvoir justement discuter. Et l'affectif, je l'avais quand même parce que j'avais un sens, je pense, du discours avec les joueurs qui était un parler vrai, un parler fort, mais j'étais dans la vérité, je pense.
Oui, il n'y avait pas de calinothérapie avec un Perrin. Il n'y avait pas de calinothérapie avec un Perrin comme c'est la mode aujourd'hui chez les coachs.
Après, c'était aussi d'autres époques. Moi, j'ai bien vu, j'ai dû évoluer aussi, c'est-à-dire que en plus, en particulier, même par rapport au niveau des clubs. C'est-à-dire que dans des clubs, je dirais, formateurs, vous pouvez peut-être avoir un style de management plus autoritaire, parce que voilà, dès que vous travaillez dans des grands clubs, vous avez des joueurs qui ont des statuts, qui ont des rapports de force qui s'établissent, qui sont différents, des joueurs qui ont des savoir-faire, où vous êtes managé différemment. Puis les époques évoluent, c'est-à-dire que si on balaye une carrière sur 30 ans, les relations ont évolué, les relations entre les gens, que ce soit par exemple l'importance des agents, l'importance de la carrière, les réseaux sociaux, tout a évolué, et donc il fallait aussi s'adapter.
Et du coup, vous pensez quoi là sur les rapports joueurs-entraîneurs? Vous trouvez que c'était mieux avant, comme on dit de façon parfois un peu mécanique, ou
Non, c'était différent, c'est-à-dire que encore, et puis après, je pense que même à toute époque, et encore maintenant, je pense qu'il y a des entraîneurs qui sont très autoritaires dans leur management, mais je pense que ça peut passer avec certains types de joueurs, ça peut passer dans certains niveaux, et ça passera pas au très haut niveau. C'est-à-dire que moi, j'ai pu constater qu'il faut justement peut-être s'adapter au haut niveau, et qu'avec un grand club, avec des grands joueurs, vous pouvez pas parler comme j'ai pu parler moi à des joueurs quand on était en deuxième division ou quand on était à Troyes ou même quand j'étais à Sochaux. Je me rappelle à Sochaux, où j'ai obtenu un résultat aussi, on a gagné la Coupe de France et j'avais des jeunes joueurs. Bon, je me rappelle, j'avais quelques garçons qui étaient un peu indisciplinés. Il fallait faire un peu régner l'autorité et c'est plus facile de faire ça. Alors que vous êtes obligé de faire des... Vous ne pouvez pas avoir le même discours avec des joueurs indisciplinés dans des grands clubs qui sont des stars, des statuts, qui font gagner les équipes et qui pouvez faire. Vous êtes obligé là d'avaler entre guillemets des couleuvres, de faire mettre de l'eau dans votre vin, de prendre les choses d'une autre façon, plutôt que de prendre des gens un peu frontalement.
Oui, je rappelle que vous avez gagné la coupe avec Sochaux contre Marseille à l'époque.
Donc, ouais, mais en 2007.
Est-ce que le fait de ne pas avoir eu de carrière pro vous a parfois handicapé dans votre carrière d'entraîneur, de carrière de pro de joueur, je veux dire.
Je réponds à ta place. Vas-y. Pour démontrer les exercices, c'est un problème, parce que je me souviens de certaines anecdotes quand il s'énervait.
Si j'ai pas fait une carrière pro, c'était pas forcément pas pour un problème technique de football, parce que j'ai joué à certains niveaux. C'était plus parce que j'avais pas les qualités athlétiques de vitesse en particulier pour jouer, parce que j'avais quand même quelques matchs de 3e division à Nancy. Donc j'avais quand même
comme Jérôme, bon finalement
amateur. ça c'est pas un souci de le faire, même si j'avais pas le talent de certains joueurs avec qui j'ai côtoyé. Mais c'est pas le ce qu'on demande le plus important. Je pense que sur le management, par exemple, la connaissance du vestiaire. Mais c'est vrai que, au début, ça m'a mis la pression un peu pour pouvoir prouver. Parce que, souvent, n'ayant pas eu cette carrière de joueur professionnel, je n'avais pas mon passé de joueur pour valider ce que je pouvais.
Oui, parce que souvent les joueurs ont besoin de trouver en face d'eux quelqu'un. Ils se disent, attends, lui, il a fait ça, donc j'ai plus de respect parce qu'il a fait ça.
À un moment donné, ça donne une mais, c'est pareil, le discours derrière, il faut qu'il soit cohérent. C'est-à-dire que si vous êtes professionnel et puis que vous n'êtes pas cohérent dans vos choix, dans vos explications et de ça, après, au bout d'un certain temps, ça passe pas non plus pour les joueurs. Les joueurs ont aussi une certaine exigence. Donc, à un moment donné, moi, je
Vous n'êtes pas le seul entraîneur à ne pas avoir eu de carrière pro. Il y a énormément d'entraîneurs de très haut niveau qui n'ont pas eu de carrière pro.
Mais justement, je pense qu'on compense. On compense parce que par le travail, parce qu'on a plus à prouver au départ. Et peut-être quand j'étais moi jeune entraîneur, justement, j'avais quand même travaillé dans un club professionnel, puisque j'étais quand même directeur du centre de formation à Nancy pendant 5 ans. J'avais quand même formé pas mal de joueurs. J'avais quand même côtoyé le système pro à travers le club de Nancy. J'avais vu comment ça se passait, les vestiaires. C'était quand même assez proche de là. J'avais eu des entraîneurs comme Aimé Jacquet qui était passé à Nancy. Il y avait eu Arsène Wenger. J'avais côtoyé comme des entraîneurs. J'avais quand même des contacts. Je débarquais pas non plus de nulle part. Donc, ça m'avait donné quand même des références. Mais après, effectivement, quand vous êtes au contact, avec 3, on est parti d'assez bas aussi. j'ai pu me construire avec le club. Mais c'est vrai que c'est toujours cette volonté de prouver aussi qui renforce un petit peu l'exigence. Je ne pourrais pas m'appuyer justement sur un nom, sur un passé joueur.
Aujourd'hui, quand vous regardez le foot là, de 2020, là, vous vous régalez ou alors vous restez un peu sur votre faim?
Qui vous aimez? Quels sont les clubs, les équipes, les entraîneurs dont le travail vous plaît?
Oui, je suis toujours bien sûr Christophe Galtier, qui a réussi bien et qui fait souvent un très long boulot à Lille.
Vous avez remarqué évidemment qu'il a pas mal évolué dans son discours,
dans
la façon de faire jouer l'équipe. C'est quelqu'un qui a connu une véritable évolution qui est très intéressante d'ailleurs.
C'est permis aussi par les joueurs. Bon, moi, je connais bien Christophe et c'est pas quelqu'un qui, lorsque je jouais à Saint-Etienne, qu'on l'affublait d'un entraîneur défensif ou frileux, je ne trouvais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui veut faire des résultats.
Il était quand même.
Non, je pense pas qu'il était vraiment. Je pense que c'était l'analyse qu'il faisait de la valeur de son équipe qui l'amenait à produire quelque chose comme ça. À la Lille, il peut produire un autre jeu parce qu'il
est des meilleurs joueurs.
Staff, il avait des joueurs offensifs qui lui permettent. C'est la qualité de vos joueurs. Vous pouvez pas. À un moment donné, même quand vous êtes par exemple.
À un moment, il avait des très bons joueurs à Saint-Etienne. Il avait le 4e, 5e effectif et ça n'empêche que c'était une des équipes qui était les plus pénibles à regarder jouer. C'est la vérité.
Il a
évolué. Même quand on écoute ses interviews, lui-même le dit qu'il a évolué, qu'il fait jouer son bloc plus haut, qu'il parle de spectacle alors qu'il n'en parlait jamais avant.
Je suis pas sûr qu'il avait quand même une équipe sur le plan offensif. Qui lui permettait d'être assez flamboyant. Je pense qu'il s'adaptait un petit peu au potentiel global de son équipe. Il avait bien sûr un effectif. Il y avait un très bon gardien. Il y avait une équipe qui était en place. Mais je trouve qu'il avait toujours quand même une régularité de résultats qui était plutôt cohérent par rapport.
La régularité des résultats, elle était effectivement cohérente. Il plaçait son club toujours à peu près au même endroit, mais il n'empêche que je trouve, et pour en plus avoir lu et beaucoup entendu de ses interviews, qu'il a beaucoup fait évoluer son approche, et que moi je trouve que c'est la preuve d'un entraîneur intelligent, quelqu'un qui ne reste pas figé sur ses opinions tout au long de sa carrière.
C'était aussi plus facile avec Lille que les attaquants qu'il a pu avoir. Je veux dire, c'est quand même intéressant, même justement, surtout sur la vitesse, il avait la possibilité. Et cette année, il y a des joueurs clés qui sont partis. C'était aussi un peu plus difficile à mettre en place. Il a fallu prendre un peu plus de temps. Mais je pense qu'il a envie de produire un football de qualité.
Oui, c'est ce qu'il fait.
Il y a d'autres garçons comme Stéphane, j'aime bien aussi à Rennes, j'aime son discours. Et je trouve qu'il fait du bon boulot là-bas.
Et à l'étranger, vous regardez un petit peu les autres championnats?
Non, les matchs de Champions League, là, c'est que les entraîneurs qui sont des entraîneurs de référence que l'on connaît. Bon, j'apprécie beaucoup, bien sûr, et c'était trop d'aspiration. Un garçon comme Guardiola, bien sûr, Klopp, tout ça, ce sont des garçons qui. Ils sont des sources d'inspiration pour les entraîneurs.
Bon, on a pas mal de supporters de Troyes qui se réveillent, là, qui nous écrivent. Ah, quelle époque! Bon, évidemment, c'est une époque bénie pour les Stacks, Jérôme, là, quand vous faites l'aventure en Coupe d'Europe et le fameux match contre Leeds.
C'est surtout quand tu regardes avec le recul l'effectif, on avait un bon effectif. Alors Alain parlait de la qualité, j'étais assez d'accord avec la qualité offensive de Saint-Etienne, même à l'époque de Galtier. Nous à Troyes, on avait beaucoup de qualité offensive, mais c'est vrai que défensivement on avait des joueurs. Tu te dis avec le recul comment on a pu être en Coupe d'Europe avec certains joueurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est vraiment parce que le coach, c'est vraiment le coach qui arrivait dans son discours aller faire grimper au rideau parce que franchement on avait quelques lacunes, mais ça se voyait pas sur les matchs, donc
pour confirmer,
on a tiré le maximum.
Non, mais surtout on avait un esprit, à un moment donné c'est ce que doit apporter pour moi un coach, c'est-à-dire qu'à un moment donné la valeur d'un coach c'est quelqu'un qui peut apporter un plus par rapport à la valeur individuelle des joueurs, à leur effectif. Mais on avait construit des joueurs qui m'avaient suivi depuis la nationale 2, pratiquement, qui avaient monté avec le club et qui se retrouvaient à jouer en Ligue 1. Donc ceux-là, ils avaient une énergie, une envie incroyable. Et tout le monde, tout le groupe, et c'est ça aussi quand même, c'est aussi un message que je faisais passer même jusqu'en Chine, c'était de dire, avant de bien jouer en équipe, il faut former une équipe. Et c'est aussi ça, c'est un peu à un moment donné, c'est de réussir à le réunir, à créer un esprit de groupe. Et notre force aussi à Troyes, c'était ça, c'était un groupe où il n'y avait pas peut-être de stars parce qu'on n'avait pas les moyens de faire. On était donc basé sur des projets de jeu où on prenait des bons joueurs de niveau, parce que si on n'a pas de niveau, il faut quand même pas réussir. Et puis avec des joueurs d'avenir, des garçons comme Jérôme, qui peuvent justement apporter un petit plus, parce que c'était un club de post-formation pour lancer des joueurs, donc de recruter des joueurs qui avaient un potentiel, qui sortaient des centres de formation, donc qui ne pouvaient pas jouer en Ligue 1 dans les grands clubs, et qui venaient jouer chez nous. Et après, il y avait un esprit justement, voilà, un esprit volontaire, un esprit de groupe qui permet justement de faire un petit peu, comme on a pu voir, ben, je pense à des équipes comme Strasbourg, des équipes comme Nîmes, des équipes comme ça, qui sur la lancée d'une montée arrivent à générer un état d'esprit qui permet d'obtenir des résultats. La difficulté après, ben, ces clubs-là, c'est que les très bons joueurs sont appelés à grimper, passer au-dessus, et puis après, il faut renouveler l'effectif. Donc c'est toujours dur de.
Et c'est pour ça, Alain. C'est pour ça, Alain, que bon, alors même si t'as expliqué, c'est des choix de vie et tout ça, de partir à l'étranger et tout. Même si tu veux te consacrer à ta famille, et t'as bien raison avec tout ce que t'as donné au foot, mais ta décision de ne pas vouloir après Nancy recontinuer, même si tu l'avais pris avant d'arriver à Nancy, c'est aussi parce que aujourd'hui, faut pas, avec les mentalités des joueurs, du moins les dirigeants, c'est les profils, du moins le style qu'ils veulent mettre dans leur équipe, le projet qu'ils ont, c'est compliqué d'avoir ce que tu viens de dire comme à l'époque à Troyes ou à Strasbourg aujourd'hui, quoi.
Oui, c'est pas facile parce qu'effectivement, c'est ce que je me suis rendu compte en voyageant un peu, c'est-à-dire qu'à Troyes, ben, effectivement, mon rôle de manager me permettait de faire le recrutement, de voir un peu le profil, d'avoir créé un état d'esprit. Lorsque vous êtes, quand vous baladez de club en club, vous n'êtes plus maître forcément de tous les choix, du choix de recrutement, du choix de la politique du club, parce que les présidents, les dirigeants, les investisseurs, tout ça, ça interfère. Et ça devient plus compliqué après de réussir à faire cela. Donc ben, c'est aussi le travail de maintenant. C'est aussi, il faut s'adapter à cela. Hein. C'est aussi le travail maintenant des entraîneurs de prendre un petit peu ça. On voit bien à Marseille un petit peu comment ça se passe quand les gens ont réussi une très bonne saison. Ça aussi, c'est un entraîneur, je trouve, qui est intéressant. Et là, voilà, je pense que justement. Bah, pour la saison prochaine, il s'inquiète parce que s'il va en Champions League, si les dirigeants vendent des joueurs, s'il y a l'aspect économique, ça peut rendre les choses
plus
compliquées.
Alain Perrin, je vous propose de rester avec toi encore 3 minutes. On a une courte pause parce que je crois qu'il y avait quand même une ou deux anecdotes que Jérôme voulait raconter. Il ne faut pas qu'on rate ça, bien sûr. On after tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Loupéa qui tire, arrêt, c'est fini. Richard arrête le ballon de Zoubar. Sochaux gagne la Coupe de France. Sochaux gagne la 90e Coupe de France. Et Sochaux gagne la 2e Coupe de France de son histoire. Après 1937-2007 pour Sochaux qui gagne. Oh, quelle soirée, quel suspense. Et quel match les Sochaliens. Et
le pauvre Zoubar. Et quel talent. Voilà, c'était la victoire de Sochaux.
Est-ce que c'est son plus grand moment? Est-ce que c'est votre plus beau moment dans votre carrière?
Oui, un des plus beaux, oui, très certainement, ouais. parce que on était pas favoris sur ce match-là, quoi. Donc
c'est pour ça que je demandais ça.
Voilà,
ouais.
Parce que quand à Lyon, je fais le doublé, mais on avait la meilleure équipe de France. Donc je veux dire que là, c'était pour moi plus une logique, même si ça n'a pas été refait ou avant ou après. Mais
il fallait juste savoir conduire la Formule 1. C'était la formule consacrée.
Voilà, exactement. cette réussite sochalienne, et puis effectivement, c'était magique. Encore une fois, c'était un parcours avec une équipe, avec un groupe, des garçons comme Jérôme Leroy, Karim Ziani, les jeunes qui étaient très très sympas.
Jérôme, on sort un peu les dossiers maintenant là pour conclure là.
Ouais, non.
Allez.
L'anecdote. Merci, à bientôt.
Déjà il y en a une sympa. C'est là hier je parlais du coup franc qui a été retweeté, bien sûr. Hein, les gens ont pris en photo la taille du coup franc en disant il est pas à 35 mètres, il est pas à 30 mètres.
Tu nous annonçais un coup franc à 35 mètres, il était à 22. Bon.
Non, déjà, il est à 28 mètres.
C'était contre qui?
Contre Paris. et contre Paris et la veille de ce match. Alors moi, écoute, l'anecdote, c'est que c'est là on est la quatrième jour au bout de la quatrième journée de championnat. Les trois premières, je suis remplaçant, donc je tirais la gueule, je faisais que des rentrées. Et Alain me dit donc la veille du match, il me dit bon demain tu vas jouer piston gauche. Donc on jouait en 3-5-2, je jouais carrément dans le couloir gauche. Et première titularisation en plus contre le Paris Saint-Germain, il me dit tu vas tirer les coups de pied arrêtés, tu tires les corners, tu tires les coups francs. Et s'il y a un coup franc là, et il se met à peu près à la place où le lendemain je mets ce coup franc, et il me dit voilà, il faut que tu arrives à viser les panneaux publicitaires derrière, pas forcément. Tu prends des repères et c'est important. Et j'avais tiré une quinzaine de coups francs comme ça, on était tous les deux. Et le lendemain, comme par hasard, mon premier but en Ligue 1, c'est sur un coup franc à cet endroit-là. Donc ça, c'est une anecdote assez sympa, comme quoi il arrivait à être à te mettre dans la tête que c'était possible. Et puis alors après, oui, il y avait plein des années.
C'est possible avec des garçons qui ont la qualité pour le faire. C'est pas.
Oui.
Avec la qualité principale, c'est quand même ça, d'avoir un bon pied et de pouvoir justement, que ce soit sur tes centres, sur les corners ou les coups francs, justement, t'étais à droit, quoi. Donc, je veux dire, si je te proposais à toi. Et c'est aussi ça. C'est vrai que l'année dernière, j'avais un garçon à Nancy, c'était Bassi, Amine Bassi, qui a un bon pied comme ça. Et c'est pareil. S'il faut faire comprendre l'entraînement que, ouais, effectivement, il faut travailler un petit peu, mais qu'il faut utiliser son talent. C'est pour ce talent-là que tu avais joué. À jouer pour être récupérateur du ballon. Hein.
Alain, ouais, non, j'en fais pas trop parce que toi après tu vas aller te coucher, tu raccroches. Nous on se le tape toute l'année, Jérôme. Et je te jure, il a pas besoin que tu lui dises qu'il avait du talent. Hein.
Est-ce qu'il avait déjà le boulard comme aujourd'hui à l'époque?
Non. Ça, c'est venu bien plus tard.
Ah, d'accord.
C'est venu avec le talent, en fait. C'est pour ça. Mais non, et puis alors la deuxième, où je disais que c'était un entraîneur, mais Alain l'a reconnu aussi, hein, qu'il était assez dur et tout. Il y en a plein sur les séances d'entraînement, parce qu'il nous a bien cassé la tête par moment. Mais sur un match, je me souviens, on jouait Rennes à domicile. Je crois qu'on est mené 1-0 à la mi-temps. Bon, on fait pas une bonne première mi-temps. Il rentre dans le vestiaire. Il claque la porte, il nous dit vous démerdez, vous écoutez pas, vous démerdez, et on le voit pas de la mi-temps. Et on reprend, l'arbitre siffle pour revenir. On dit mais merde, on change rien en fait les gars. On se regroupe entre nous. On dit on va le faire pour nous. On n'a pas de coach là. Et en fait, on s'aperçoit qu'il était même pas revenu sur le banc de touche. Il a passé la deuxième mi-temps dans la tribune comme un supporter. On a fait la deuxième mi-temps sans coach. On a gagné 2-1. Et en plus, sur le deuxième but, c'est moi qui donne la balle de but. Et je me souviens être arrivé devant la tribune présidentielle où Alain était au premier rang, là. Et en lui tirant la langue en disant, regarde ce qu'on a fait, regarde ce qu'on a fait. Voilà.
Je me souvenais plus de cette anecdote là, toi, mais
j'ai ça se trouve, elle est inventée. Alors, si vous vous souvenez plus, c'est qu'elle doit être inventée. C'est avec Jérôme, on a l'habitude.
La réaction escomptée est arrivée.
Je pouvais être timide justement de bouder comme ça. C'est vrai que ça m'est arrivé à d'autres clubs aussi à un certain moment, parce que effectivement de toujours un peu directif et de donner un peu les consignes à faire. Bon, ben c'est peut-être lourd aussi des fois pour les joueurs, et les joueurs ça réussit moins bien, ils ne font pas. Et à un moment donné, il faut aussi mettre un pas en arrière pour amener les joueurs un peu en provoque, à justement être face à leurs responsabilités, à provoquer une réaction justement d'orgueil collectif pour faire. Alors on a différents arsenals pour pouvoir justement faire réagir les joueurs à mi-temps. Des fois c'est l'un ou l'autre qu'on pique, des fois c'est le groupe qu'on veut faire. Donc on a différents ressorts sur lesquels il faut appuyer. Puis de temps en temps justement c'est de laisser les joueurs entre eux, de dire bah maintenant c'est à vous qui prenez le truc en main, c'est à vous de faire parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, quoi. Donc il faut avoir quelques leaders.
Et dites-moi Alain Perrin, votre expérience à l'étranger, est-ce qu'elle vous a appris que c'était différent culturellement d'entraîner en France, d'entraîner dans le golf, en Chine, parce que celui qui reçoit le message de l'entraîneur, la façon qu'il a d'être dans sa vie, socialement, culturellement, c'est complètement différent, parce que vous nous dites vous pouviez être sévère, vous pouviez vous adapter, mais là vous avez dû trouver des personnes que vous ne connaissiez pas finalement.
Oui, ben bien sûr.
Les réactions, le rapport humain, tout ça, quoi.
Ben disons que là, il y a une médiatisation parce que vous passez par des interprètes. Mon choix était toujours aussi de travailler avec des adjoints locaux ou qui parlait la langue. D'accord. C'est-à-dire que même parce que, bon, c'était pas suffisant même d'un pays arabe de parler anglais, parce que, bon, quand on parle déjà par une autre langue, bah, c'est plus facile, c'est plus difficile de d'être pour bien message, compris, ouais. Pour ouais. certains qui parlent pas bien la langue, en plus. Donc, et donc, effectivement, j'ai toujours eu des échanges avec mes adjoints pour faire attention à ces problèmes culturels, hein, parce qu'effectivement, bah, y a des différences un petit peu, il y a des points forts, des points faibles. Par exemple, en Chine, ils sont très très disciplinés et donc c'est très facile de justement de mettre en place ces choses. Ils ont bien envie de réussir.
Oui, ça a dû vous faire bizarre d'arriver à Nancy après la Chine.
Non, mais après, c'est manque de créativité, ça manque de prise d'initiative. Vous voyez, c'est pas toujours, tout n'est pas facile non plus. Et puis après, on perd du temps, justement. On perd du temps avec les interprètes qui doivent justement traduire votre discours. Donc c'est
Alain Perrin, plus compliqué. Il faut que je vous coupe parce qu'il est 23h, on arrive au bout de notre discussion. Merci en tout cas, c'était très sympa.
Merci.
Ça m'a fait plaisir, Jérôme, de parler un peu avec toi. T'as pas été trop méchant, voilà. Il y en avait des plus sévères, hein, c'est sûr.
Ah oui, bien. Je les ai réservés, je les réserve pour après.
Ouais. Merci Alain, bonne soirée, à bientôt.
Salut Alain, à bientôt.
À bientôt dans l'after. Nous, dans quelques instants, on part en Espagne. L'histoire de Figo, incroyable, qui quitte le Barça pour aller au Real et qui avait fait scandale en Espagne à l'époque. C'est juste après les infos. Il n'y a pas d'infos. Juste après le top horaire dans l'after. À tout de suite.
Manage your entire business with Sage. Sage Business Cloud offer a faster, more flexible, and easier to use ERP system that will reduce costs and strengthen your bottom line. Get industry-specific support, improve your supply chain transparency, reduce risks, and ensure efficiency with real-time monitoring and secure cloud and mobile access whenever, wherever you are. Join over 2 million customers who already trust Sage to manage their back office. Visit sage.com and search for ERP today.